11h32, merci d'être bien présent dans l'Open Mic. Audrey qui nous trouve des invités à gauche et à droite. Travaille extrêmement fort. Merci Audrey d'avoir accepté de faire ce show-là avec moi.
T'es bien fin matin, qu'est-ce qui se passe?
En fait, t'avais pas le choix.
Ouais, c'est ça.
Mais au moins t'as accepté, tu t'es pas sauvé. Puis on le voit, tu travailles extrêmement fort. J'en parlais d'ailleurs hier soir avec un gars avec qui j'aimais bien m'entraîner.
OK.
Et on a dit qu'Audrey travaillait fort. Ah, Pascal mais... aussi travaille
wow,
très fort.
C'était... Il est fin au matin.
Oui.
Tu files doux, on dirait.
On est comme ça. Hey, on se réfère un peu à... Il y a ça quoi, quelques semaines, mm-hmm. on a... Il y a un article de Maria Mourani dans le journal qui nous avait un peu interpellé parce que, bon, Maria Mourani, c'est une personne que j'aime beaucoup. C'est une criminologue, une femme extrêmement intelligente. Elle a ses opinions. Est-ce qu'elle a toujours raison? Pas sûr. Il n'y a personne qui a toujours raison. Mais elle a ses opinions. Puis dans le papier, elle parlait de prostitution. On a parlé avec elle, entre autres, en ce qui a trait au Grand Prix de Montréal,
ouais.
où il y avait des gens qui provenaient d'un peu partout dans le monde, spécifiquement pour se prostituer à Québec, et des gens qui provenaient d'un peu partout dans le monde, oui, pour la F1, mais pour avoir droit de côtoyer ces filles-là qui se présentaient à Montréal. Mais dans l'article présent, Maria Mourani nous avait marqué en disant « Ben, il n'y a pas de bonne prostitution à ses yeux ». Selon elle, ce serait juste des viols tarifés. Donc, en gros, la prostitution, selon elle, c'est pas un travail. Puis que d'ailleurs, le terme « travail du sexe » ou « travailleur du sexe » n'est ni reconnu ni défini en droit international. Il est utilisé pour faire passer la pilule, selon elle, pour soi-disant redonner une dignité aux personnes qui se prostituent.
Oui, puis c'est quand même des termes qui sont forts. Puis c'est drôle parce que chaque fois qu'on parle de prostitution, on dirait qu'il y a deux gangs automatiquement là, qui se forment. Là. Des gens qui sont pour la liberté du choix de travail que tu fais. Il y en a qui associent ça automatiquement à l'exploitation aussi. Fait que tu sais, c'est dur de se débattre dans tout ça. Et puis moi, il y a un bout du texte qui m'a quand même marqué où c'est écrit « Pensez-y bien, si vous enlevez la transaction financière de l'équation, croyez-vous vraiment qu'une fille ou un gars accepte d'être touché? » Fait que de là, l'espèce de termes viol tarifié qu'on emploie. Puis on s'est dit, ben, qui de mieux pour en parler que quelqu'un qui travaille dans le domaine carrément, une travailleuse du sexe qui est dans la région. Elle s'appelle Amy Bellerose. Puis elle a accepté de se déplacer en studio ce matin pour venir jaser tout ça avec nous autres puis nous éclairer un peu. Bon matin.
Bon matin. Merci pour l'invitation.
Merci d'être là, Amy. T'as lu l'article de Maria Mourani.
Oui,
tes premières impressions quand t'as lu ça?
Mon Dieu, j'ai trouvé ça cru. Puis c'est des grands mots, comme tu disais, Audrey. Moi, je pas d'accord avec la plupart de ces propos là, ça
ouais.
C'est sûr et certain.
Comment on fait le choix de devenir prostituée?
Ben comme tu le dis, c'est par choix dans mon cas, puis bon, ça fait quand même longtemps que je fais ça, puis là c'est sûr que la première motivation pour moi c'était l'argent. Là. On s'entend
ouais.
que tu fais pas ça, ben tu peux faire ça. Normalement c'est pas mal le premier choix, tu fais ça pour l'argent et tout.
T'avais quel âge à ce moment-là?
J'avais 21 ans. Mais tu sais, j'étais à l'université, j'ai fait d'autres choses, mais bon, ça c'est aussi que ça donne une liberté. Comme de travail, tu peux travailler quand tu veux, c'est une bonne conciliation travail-famille. Moi, je suis travailleur autonome, là, fait que je décide dans mon horaire et tout. Là.
OK. T'avais-tu eu des exemples durant ton adolescence de jeunes femmes que t'avais côtoyées qui pratiquaient ce métier-là?
Non, pas du tout. J'ai d'une bonne famille, je suis allée à l'école privée, j'ai été poussée justement pour faire des études supérieures. Mais bon, j'avais comme... j'ai toujours été, bon, disons, comme une sexualité un peu débridée. C'est sûr qu'il faut que tu sois à l'aise avec ta sexualité pour faire ça. Tu peux
ouais.
pas être vraiment une sainte touche. Fait qu'à partir de 16 ans, moi, comme ben, je vais parler d'une façon un peu crue, là. Ça me dérangeait pas de coucher à droite puis à gauche. Là.
Mm-hmm.
Fait que c'est sûr qu'il faut que tu aies une sexualité assez ouverte en partant pour faire ça. Ça, il y a un moment que je me suis dit, c'est quoi la différence entre coucher avec n'importe qui ou être payé pour le faire? Là.
Tu dois te le faire demander souvent, là, mais tu sais, tu dis, bon, je viens d'une bonne famille, j'ai fait mes études, j'ai... comment t'annonces ça à ta famille? Comment c'est pris, je veux dire?
Ah, c'est sûr que c'est très mal pris, là. Ça s'est fait de fil en aiguille. Ma mère, comme elle l'a découvert, au début, je disais que j'étais danseuse. Après ça, masseuse. Puis après ça, bon, elle a fini par découvrir que j'étais escorte.
Okay. Il y a eu une certaine désensibilisation que tu as tenté de faire avec tes parents.
C'est sûr.
OK.
Puis en plus, comme mon père est d'origine musulmane, donc ça n'a pas été facile de ce côté-là. Puis, mais c'est ça, ils ont fini par l'accepter aussi, mais c'est sûr que ma mère, elle ne crie pas sous tous les toits à ses
ouais.
amis que je fais ça. Ça reste tabou, là.
Ils ont-tu... tu sais, des fois, on fait tout le temps des rétrospectives en tant que parents, là. Tu sais, quand nos enfants font des niaiseries, surtout les miens, je dis, voyons, vous savez que j'ai raté à quelque part. Ils ont-tu ce réflexe-là d'amener ça sur eux en disant, mais Amy, qu'est-ce qu'on t'a pas donné, qu'on aurait dû te donner, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu choisisses ce métier-là? Ils ont-tu pris ça sur eux?
Non, mais peut-être qu'elle l'a pensé, m'a pas voulu me faire culpabiliser, mais non, on n'a jamais comme tenté ce terrain-là.
Comment la prostitution a changé? T'sais, on dirait qu'on a l'image automatique des filles sur le trottoir. T'sais. Mais tu sais, tu as un site, c'est organisé différemment. Aujourd'hui, on parle tout le temps de réseaux sociaux. Fait que comment le profil de la prostitution a changé avec les années?
Moi, je pense que c'est quand ils ont permis les ouvertures des salons de massage. Ça fait quand même longtemps. Je pense que ça fait une vingtaine d'années. Au départ, les salons de massage, il n'y avait pas d'extra. Donc, je pense que ça a favorisé comme une place comme plus sécuritaire pour les femmes. Puis, de fil en aiguille, il y a eu moins de travail dans la rue. Puis après ça, c'est ça. Comme nous, les filles indépendantes, on a des sites Internet, on a aussi les réseaux sociaux pour faire notre publicité.
C'est-tu la meilleure façon de faire pour éviter l'exploitation? Je ne sais pas si la question est bien posée.
Tu parles d'être indépendante?
Oui. Hein?
Bien, ça dépend parce qu'il y a des filles comme qui vont préférer être dans une agence ou dans un salon de massage parce que ça ne leur tente pas d'avoir à tout gérer. Parce que moi, je gère de A à Z, je gère mon site web, je gère mes textos, je gère mes rendez-vous, je gère les annulations, les patatis patata. Donc, ça fait beaucoup d'ouvrages. Il y en a qui veulent pas se casser la tête, qui arrivent à job, puis font leurs chiffres, puis elles repartent comme ça.
Comment tu t'assures de ta sécurité, Amy?
C'est sûr que moi, je filtre mes textos. Puis je les vois tout de suite, là, comme t'as des red flags. Dépendamment comment ils t'écrit, tu le vois tout de suite, là.
Ah ouais.
La façon de qui t'aborde, puis t'es comme, OK, non, je te prends pas, là.
C'est quoi un red flag pour toi, mettons, d'un client qui réussit à te rejoindre, puis là, toi, tu dis, non, moi, je veux rien savoir de ce gars-là?
Admettons qu'il va commencer à trop me demander des choses que j'aimerais pas faire. Je vais dire, écoute, je serais pas la bonne personne pour toi, puis je te conseille d'aller voir une autre fille.
Pis ça, c'est clair.
C'est clair. Comme si je me sens pas bien dans la communication qu'on a eue, là, je vais pas plus loin, ça me dérange pas de perdre de l'argent. Je préfère me sentir en sécurité.
Ouais. Tu t'assures-tu d'être dans un endroit qui est relativement passant? Je ne veux pas sans nécessairement me dire où tu es. Est-ce que tu sais, les hôtels, c'est plus sécuritaire pour vous autres?
Moi, je suis pas dans un hôtel. J'ai vraiment mon lieu de travail, comme j'ai mon propre in-call. J'ai mon appartement aussi où je demeure, donc c'est séparé. Puis, j'ai des voisins autour, donc c'est sûr. T'sais, bon, on peut pas... le risque n'est pas à zéro non plus, là. Comme que ça soit aussi dans un salon de massage, le risque n'est pas à zéro. Sauf que j'ai déjà travaillé dans un salon de massage, puis ça arrivait que le client ne payait pas son extra, puis qu'il laissait partir quand même. Donc, moi, je me sens beaucoup plus en sécurité chez moi. Je ne laisserais jamais partir quelqu'un. Probablement, je le fais payer avant, là. Puis, tu sais, s'il ne paye pas, mais écoute, tu peux t'en aller, la porte est là. Ouais. Mais comme dans un salon de massage, il laissait partir le client sans que j'aie été payé.
Y a-tu des gens qui se proposent à toi constamment pour être ton protecteur, entre guillemets?
Honnêtement, jamais, là. Puis ça arrive, ben c'est sûr que je le laisserai pas entrer dans ma vie. J'ai déjà eu des conjoints, mais comme mon conjoint, il me demandait pas 50 % de mon salaire, j'avais à payer comme la maison, l'hypothèque, comme n'importe qui, là, qui sont en couple.
Je sais pas si ça va bien sortir comme question, là, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines filles, selon toi, qui se ramassent dans entre les doigts de pimp, tu sais? Là, je t'écoute parler, puis toi, t'as l'air vraiment au courant de ta business, de comment tu gères tes affaires, t'as tes limites, Et pourtant, il y a beaucoup de filles très intelligentes, très éduquées, qui, au quotidien, se ramassent sous l'exploitation d'un pimp.
Moi, je pense que peut-être que ça vient d'un manque de confiance en elles puis qu'ils pensent qu'elles dépendent de quelqu'un. Il y a aussi, c'est ça, le sentiment de protection, peut-être qu'ils ont peur d'avoir à travailler toute seule. Mais tu sais, c'est juste une impression parce que chaque fille peut vraiment travailler toute seule puis ça, c'est mieux pour leur sécurité. Là. Parce que justement, si, comme le pimp, le proxénète, il va prendre n'importe quel client, là, lui, ça ne dérange pas, il ne fait pas le filtre des textos. Donc, c'est il peut mettre la fille en danger. T'sais, c'est comme une fausse impression de sécurité, souvent, que d'après moi, les filles vont chercher. Puis, comme je dis, un manque de confiance en elles, qui sont comme, je mérite pas mieux, peut-être que.
On entend tellement d'histoires d'horreur au quotidien. C'est ce qui ressort le plus,
c'est en ça,
fait.
Mais
là,
ils ne parlent pas des bonnes choses non plus. Là. Ils ne parlent pas comme du côté positif du travail. C'est tout le temps comme
le côté négatif qui ressort. Et est-ce que tu sens que tu as une crédibilité comme travailleuse du sexe?
Bien, c'est sûr que je dis pas mon métier ouvertement parce que je peux pas arriver chez le dentiste et dire, moi, je travaille du sexe. Ça va comme créer un malaise, donc non, j'ai pas de crédibilité à cause de tous les préjugés, les tabous qui sont à propos de notre métier.
Moi, j'étais un gars plate dans la vie, en couple, j'étais un gars conventionnel, OK? Je suis protecteur de ma blonde et tout ça. Quel genre de gars peut te démontrer une ouverture qui va faire en sorte qu'il va accepter le métier que tu fais tout en ayant une relation amoureuse avec toi. Est-ce que c'est, est-ce qu'il y en a beaucoup de ces gars-là?
Ben, il y a quand même des critères là, que j'avais déjà parlé de ça avec mes amis. Soit le gars, il est vraiment comme troublé mentalement. Là.
C'est bon.
Sur Tinder, c'est rare qu'ils écrivent ça. Je suis troublé mentalement.
Non, mais c'est ça. Ou ben non, il veut profiter de ton argent.
Ah, ouais.
Ou tu sais, il fait un métier louche lui aussi. C'est vrai que c'est comme pas vraiment conventionnel. Donc, c'est rare que la personne va être 100% mentalement là puis qu'elle va dire « OK, j'accepte ton travail d'emblée. » Là.
T'as-tu encore confiance aux hommes?
Ben là, avoir la quantité d'hommes qui trompent leur conjointe, pas vraiment, là.
Mais tu trouves ça difficile pour vrai? Parce que, tu sais, je t'écoute parler, puis si je résume, c'est pas très, très positif, là. Tu sais, ils sont soit détraqués mentales, soit ils veulent ton argent, soit. Est-ce que tu envisages une relation amoureuse à un moment donné où tu vas devoir te retirer de ce métier-là?
Je pense qu'honnêtement, si je veux une relation saine, il va falloir que je me retire comme de ce milieu-là. Donc, c'est pas ma priorité. D'être en relation de couple.
Mais tu sais, l'homme est capable du meilleur comme il est capable du pire. Est-ce qu'un jour, advenant le cas, lorsque tu prendras ta retraite, tu vas avoir l'impression que tu vas pouvoir être avec un conjoint puis ne pas constamment douter qu'il est aussi weird que toutes les autres que tu as rencontrées?
Ça dépend, comme il faut que tu t'attends. Comme le gars, l'homme a besoin de sexe. C'est vraiment, les hommes ont vraiment une grosse libido. Donc, il faut que tu parles avec ton conjoint. Si t'es pas capable, toi, de lui donner qu'est-ce qu'il veut, ben écoute, est-ce qu'on peut être dans un couple ouvert? Rendu là, je vais parler, on va voir c'est quoi nos attentes à ce moment-là. Parce que tu peux pas comme contraindre ton conjoint dans une cage, puis quand tu lui donnes rien, il va...
Est-ce que tu as le sentiment que quand bon, tu tentes des relations plus personnelles, que les gars ont des attentes envers toi? J'ai comme l'impression que, puis écoute, je dis ça, Yann, corrige-moi, en fait, là, j'ai pas la pensée d'un homme non plus, mais dans ma tête, on dirait que les gars ont l'impression que, ben si tu fais ça de ton quotidien, puis là, je m'excuse les termes, ben c'est le son, ben t'es une cochonne, puis au lit, dans le personnel, là, ça va être intense, puis est-ce que tu as affaire à ça ou...
Ben je te dirais qu'avec mon ex, on faisait plus l'amour comme que d'autres choses, parce qu'il y avait comme les sentiments qui étaient là, donc c'était comme plus passionnel qu'au travail, tu sais, le travail, ça reste que... C'est une prestation que je donne de service puis de sexe. C'est pas, je donne pas mon amour, donc ça vient que c'est ça qui crée comme la différence. Puis non, il y avait pas d'attente. Là. C'est sûr qu'après une journée de travail, c'est peut-être que ça me tentera moins, mais c'est pas pareil parce que l'amour est là. Mmh.
OK. Est-ce que tu as écouté le film Pretty Woman?
Ça fait longtemps. Okay. Là.
Est-ce qu'il y a déjà des Richard Gere qui t'ont approché en disant « Moi, Amy, t'es la femme de ma vie puis je veux t'avoir pour moi jusqu'à la fin de mes jours? »
Non, c'est pas arrivé parce que ça prend un gros budget pour faire ça.
tu dépenses beaucoup, visiblement.
C'est vrai, mais c'est vrai, là.
Tant qu'on sait les vraies affaires.
Mais il n'y a jamais personne qui t'a dit, moi, je tu t'en viens avec moi, on va faire le tour du monde.
Non, jamais. Okay. Je pense que ça arrive comme plus à Montréal, ces choses-là, comme le monde a plus d'argent à Montréal.
Excuse-moi, tu vas dire.
Ben non, mais c'est parce que je trouve que la perche est tellement là. Tu sais, tu parles de Montréal, mais est-ce qu'il y a une grosse demande dans la région de Québec? Parce qu'on entend toutes sortes d'affaires par rapport à des arrestations, tu sais, des chiffres au niveau de la prostitution dans la région. Et, tu sais, je vous donne des exemples, mais les arrestations en lien avec la prostitution ont augmenté, bon, en flèche dans les dernières années. On parle de comme 180 arrestations au Québec, puis à Québec, on parle de 41 arrestations dans les deux dernières années. Puis, tu sais, pour vous faire un comparatif, là, quand t'es comme entre 2018 et 2022, on parle de 3-4 par année. Fait que quand on dit en flèche, c'est vraiment en flèche. Est-ce que tu sens ça, toi, dans le milieu, qu'il y a une grande clientèle actuellement?
Okay, à Québec?
Oui.
Ben, je te dirais qu'on est en récession, puis on se le cachera pas. Donc, ça a un impact sur la diminution de la clientèle.
Même les clients, pour ça, sont en récession?
Oui.
Ils coupent dans le budget loisir.
Ben, c'est ça. C'est comme quelque chose que tu vas te priver. Tu ne vas pas comme priver sur l'épicerie quand tu as des enfants. Bon, ben ouais. Ça, c'est comme un petit loisir que tu te coupes. Là, parce qu'il y a beaucoup de négociations. Ils essaient d'avoir nos tarifs à la baisse. Il y a moins de clients qu'avant. Donc, oui, il y a une diminution de la clientèle.
OK. Je veux jouer un jeu avec toi. OK. On va faire un quiz. Je veux que tu me répondes par des pourcentages.
OK. Ouais. Je vais essayer du mieux que je peux.
Le pourcentage d'hommes mariés qui sont parmi ta clientèle? Ben, d'hommes en couple, tiens.
Je te dirais 70 %
Oh, belaye!
OK. Le pourcentage de beaux bonhommes.
Ça va être méchant pour mes clients. C'est comme... Je veux pas...
On est juste trois, là.
Ouais, c'est ça. 20 %
OK.
20 % de beaux bonhommes. OK.
Le pourcentage d'en haut de 50.
Mais moi, honnêtement, ma clientèle est plus en bas de 40 ans. Donc,
OK.
Oui, oui, oui. Mais je dirais comme dans la moyenne des filles, Il y en a beaucoup, c'est en autres 70, ben, mettons 30-40 okay. % aux 50 ans. Là.
Mais ça, vous pouvez le choisir, votre clientèle.
Oui, il y en a qui font okay. qui disent « Ah, oh, je veux pas de clients en bas de 35 ans jusqu'à 70 ans, là, mais moi, je fais pas de… »
Okay. Fait que toi, en pourcentage, c'est tout le temps des gens qui sont en moyenne autour de 40 ans.
Oui, 35 okay. à 40.
Les gens qui te demandent des affaires normales versus des affaires anormales en pourcentage.
Anormal, on parle d'un exemple de genre fétiche des pieds. Ou...
Ouais, des affaires de même. Ça, c'est quelque chose qui m'écœure en passant.
Ouais, c'est un peu particulier, mais je te dirais 5 % des gens qui demandent des choses un peu hors normes.
Hors normes. Ah ouais, juste ça, je me serais attendue à plus, on dirait.
Le pourcentage. Ben, ça dépend parce qu'il y en a qui vont comme plus proposer ça déjà d'emblée dans leur annonce. Donc, mais...
tu peux faire un choix.
C'est ça.
Le pourcentage des gars qui vont te voir Amy Bellerose en te disant moi, je veux juste jaser.
Ils vont prendre, mettons, 2 heures. On va jaser là-dessus, mais il va y avoir comme des rapports. Là. Mais okay. Juste jaser, je dirais 1% que ça m'est arrivé une fois.
OK. Un homme avec une travailleuse du sexe, ça dure combien de temps dans la pénétration? En moyenne?
2-3 minutes.
2-3 minutes?
Seulement?
Ben, il y a des préliminaires avant, ouais. là, mais...
Non, mais tu sais, je me serais attendue à tu payes un service puis tu le payes, là, on s'entend.
Ben, tu sais, t'essaies de faire durer le plaisir, là, mais okay. à un moment donné, l'homme a ses limites.
Je suis d'accord.
Le pourcentage de gars qui en demandent 2 puis 3 fois lors de la même séance. Je sais pas si c'est une séance, c'est ça qu'on dit? Une rencontre.
Ça dépend parce que moi, c'est, si tu veux 2 services, c'est 1 heure et plus. Donc, okay. Mais comme je dirais qu'après leur première fois, ils sont souvent fatigués. Il y a un pourcentage qui demande 2e fois, 30 %
Le pourcentage de gars qui ont pleuré à côté de toi?
5 %.
Hey, c'est quand même plus que 5 %. Oh, ouais, il y en a qui viennent émotifs.
Je me suis fait raconter. Ouais.
Pour vrai, de vrai?
Mais il y en a, tu sais, puis là, on embarque un peu dans la psychologie, mais il y en a qui n'ont pas de relation avec des êtres humains.
C'est ça, mais on leur amène un bien psychologique aussi.
Ils ne se font pas coller, ils n'ont pas de chaleur humaine, ils ne sont pas capables de discuter de personne à personne avec une autre personne. Puis moi, ce qu'on m'avait raconté lors d'une émission que j'avais faite avec des travailleuses du sexe, c'est que il y a des gars qui, oui, la relation sexuelle, mais ce qui est encore plus important, c'est le social qu'ils vont faire avec la travailleuse du sexe. Puis parfois, ben, ils sont tellement contents de se faire juste flatter le dos qu'ils en pleurent.
C'est triste pareil.
Ben oui, c'est triste.
Mais en même temps, ça justifie le métier, là, je vais le dire comme ça. C'est quoi les plus grands enjeux, selon toi, de la prostitution?
Je te dirais comme la solitude, surtout comme en tant que travailleuse indépendante, l'isolement que tu peux avoir, le manque de soutien féminin. Comme des fois, tu te sens un peu les clients blacklist que tu voudrais mettre ou partager. Puis ça serait un peu les enjeux au niveau du travail indépendant. Puis au niveau donc, des salons ou des agences d'escorte, je dirais comme des meilleures conditions de travail parce que j'ai déjà travaillé là, tu travailles tard la nuit ou... des clients d'instant de massage, t'en as un après l'autre, puis t'as comme pas de pause. T'as comme pas de conditions de travail.
Ouais. J'allais te poser la question, mais j'imagine que la réponse, c'est oui. Là, j'allais te demander, est-ce qu'il faut décriminaliser la prostitution de tout bord, de tout côté, là, la considérer comme un travail légitime pour justement améliorer les conditions?
Il y a une différence entre décriminaliser puis légaliser, parce que décriminaliser, ça viendrait comme mettre des... on aurait sûrement comme des permis à avoir... faudrait comme vraiment, comme je sais pas, faire nos comptes, nos factures, etc. C'est que ça viendrait comme créer un isolement encore plus avec les personnes qui travaillent dans la rue. Eux autres seraient encore plus, stigmatisés. Parce qu'ils sont déjà un peu dans cet état-là, ils sont déjà comme rushés par la société. Donc, si on viendrait comme décriminaliser le travail du sexe, ça les mettrait encore plus dans un état vulnérable. Parce que c'est sûr qu'eux autres sont déjà comme pas dans la société normale. En mettant comme plus de règlements, c'est sûr que ça serait... Eux autres, il y aurait des amendes. S'ils ne respectent pas les permis, ils se ramasseraient dans des situations un peu dangereuses.
Mais comment tu vois ça, mettons, pour un futur où c'est plus beau pour vous?
Ça serait comme si on légalise le travail du sexe. J'imagine qu'au fil du temps, les tabous, ils tomberaient. Les préjugés, il y en aurait moins. On serait capable de dire haut et fort qu'on fait ça, puis tu serais pas gêné de le dire, là. Moi, ça serait plus à ce niveau-là, comme qu'il y ait une acceptation au niveau de la société.
Hey, on va revenir à ce que tu viens de dire juste avant. Le pourcentage d'hommes qui te font plaisir pour vrai.
Il peut l'aider!
Wow! C'est une question que je peux pas répondre.
OK. Elle veut pas dire zéro, fait que je vais le dire.
Amy, je trouve ça vraiment nice que tu te prêtes à l'entrevue parce qu'on peut te poser n'importe quelle question. T'es hyper brillante, t'es hyper allumée.
Merci.
Est-ce que... comment... vos rapports d'impôts, vous écrivez quoi?
Encore là, ça dépend de chaque fille. Là. Je peux pas répondre pour tout le monde, mais c'est sûr que tu n'as pas le choix de déclarer tes impôts parce que il faut que tu sois un citoyen, un honnête citoyen.
Un rythme de vie.
C'est ça. Moi, j'ai des enfants, donc j'ai comme si mes allocations familiales ou mon retour anticipé de la garderie, mais j'ai pas le choix de déclarer mes impôts, admettons.
Ouais.
Mais bon, c'est sûr que le salaire que tu déclares, c'est...
Il faut-tu que tu écrives ton métier, mettons?
J'ai comme écrit plusieurs métiers. Ouais.
Flûtiste.
Ouais, flûtiste, pourquoi pas? Mais là, en ce moment, je suis adjointe administrative.
OK,
administrative. OK, fait que c'est comme ça que c'est joué.
Ouais.
Ah, c'est intéressant, ça, c'est mon
ça.
Dieu.
Ben, t'sais, comme des comptables ou des conseillers financiers qui sont comme plus... qui travaillent plus pour les TDS, donc eux autres, ils sont capables de comme t'arranger quelque chose.
OK. Est-ce que...
Mais encore là, comme c'est ça, on parlait de la légalisation, ça encore, ça serait un exemple qu'on n'aurait pas à comme cacher notre métier. On pourrait l'écrire ouais. « Travailleur du sexe indépendant »,
d'un autre côté, il n'y a pas une fille qui voudrait se faire imposer à 50%.
Non, c'est sûr.
C'est déjà sûr, que tu es obligé de faire l'amour d'un bord, de te faire agresser
exact.
Par le gouvernement, ça ne t'intéresse pas.
Non, c'est sûr.
Est-ce que... Bon, là, tu as des enfants,
oui.
OK? Le père des enfants, je ne veux pas trop rentrer dans ta vie, mais en même temps, je rentre pas mal dans ta vie. Le père de tes enfants, il doit être au courant de ce qui se passe. Il doit être stressé un peu pour la mère de ses enfants. Tes enfants, est-ce qu'un jour, ils le sauront?
Bien, honnêtement, c'est une question qui est récurrente. Là. Ça revient souvent comme question. Puis je ne suis pas rendue là. Mon fils, il a 5 ans. Ma fille, elle a 1 an. C'est sûr que je m'affirme 100% dans mon métier, mais je serais comme en même temps, c'est un peu ambigu. Parce que je ne serais pas contente que mes enfants apprennent que je fais ça. Tu sais, c'est que je suis comme en questionnement par rapport
okay.
à ça. Je suis pas encore positionnée. Là.
As-tu l'impression que tu pourrais arrêter ce métier-là?
C'est sûr que si ça a un impact sur mes enfants, là, j'arrêterais. Là. Mais tu sais, il est encore jeune, il a 5 ans. Mais là, de toute façon, je ne travaillerai pas jusqu'à 55 ans, là, ça, c'est sûr. Là. Qu'on verra rendu là. Mais non, c'est sûr que pour mes enfants, si ça a un impact, c'est sûr que non.
Ça va passer avant le métier.
Oui, oui, c'est sûr et certain.
Parle-nous du projet Lune, parce que, tu sais, on parle du fait que vous n'avez pas nécessairement beaucoup de support, de crédibilité, de, mm-hmm. bon, de tout ce qu'on voudra dans ce métier-là. Tu es présidente du comité de représentation, si je peux l'appeler comme ça.
Comité d'administration.
Administration. Fait que c'est quoi ce projet-là exactement? De ce que je comprends, c'est un groupe qui vient un peu à la défense des
oui,
droits des
ça.
Travailleurs
du sexe. Oui, c'est ça. Il y a comme
sexe.
Un volet un peu qui milite pour les droits des travailleurs du sexe. Puis un autre côté qui ont un hébergement, un drop-in qui appelle, que c'est les femmes qui ont besoin d'un hébergement comme temporaire, qui viennent le soir, puis ils dorment là. Ils ont un accès à la douche, ils peuvent manger, ils peuvent avoir des vêtements propres et tout. D'ailleurs, si vous avez des vêtements à donner ou des dons à faire, vous pouvez en faire sur Projet Lune. Aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'au bureau même du Projet Lune, c'est celles-là qui ont besoin de prendre une douche dans le jour, bien, ils viennent, il y a comme deux douches, puis ils peuvent laver leurs vêtements, je pense. Non, ça, je ne suis pas sûre, là, mais en tout cas, il y a des laveuses sécheuses pour les serviettes, ça, je
okay,
sais, mais...
Okay. Fait que c'est vraiment le but est d'aider, parce que là, de ce que je comprends, ça, c'est probablement pour les femmes qui ont beaucoup plus de difficultés.
Oui, c'est ça, c'est surtout, il y a des femmes qui sont des travailleuses dans la rue de sexe, mais j'imagine qu'il y en a d'autres, j'ai pas les statistiques à propos de ça, mais c'est ça, c'est vraiment comme un organisme qui est là pour les femmes ou les personnes qui sont comme des femmes. Mm-hmm.
Je sais pas si c'est une question qui va être claire, là, mais tu dis que t'es pas sûre d'assumer encore à 100% ton métier par rapport à tes enfants. Uh-huh. Là, tu dis que t'as un jeune garçon puis une jeune fille.
Oui.
Tu sais, quand tu penses, parce que là, t'es une femme qui, bon, prend ses décisions, puis mais tu sais, on en voit beaucoup des histoires d'horreur de jeunes filles, justement, qui se ramassent dans l'industrie du sexe à des âges pas possibles, là, du 14 mm-hmm. ans, des fois, du... quand tu penses à ce volet-là, est-ce que ça t'inquiète par rapport à ta fille?
Bien, c'est sûr que je verrais comme déjà, vu que je suis là-dedans, je verrais déjà comme les red flags, là, comme qu'est-ce qui se passe, comme tu le vois un peu. Mais c'est sûr que s'il se passe de quoi, je serais là pour l'aider puis pour la soutenir.
Serais-tu à l'aise qu'elle fasse le même métier que toi un jour?
Honnêtement, j'aimerais mieux qu'elle fasse autre chose. Là. J'aimerais mieux qu'elle fasse ses études puis qu'elle continue là-dedans. Là. Mais bon, si elle veut faire ça, je peux pas l'en empêcher. Je vais pouvoir l'aider du mieux que je peux, mais c'est ça. Ben, mon gars aussi pourrait faire ça, vu qu'il y a des gars aussi qui font ça.
C'est vrai, on n'en parle pas beaucoup, effectivement.
Amy Belle-Rose, la relation que vous avez avec les policiers, est-ce que les policiers sont compréhensifs à votre égard? Est-ce qu'ils essayent de vous aider? Je suppose que toi, tu as déjà eu de l'interaction avec eux, mais mettons tes collègues.
Il y a comme un genre de groupes qui sont là pour, au niveau des policiers, qui sont là pour les filles qui sont victimes d'exploitation. Ou qui ont des problèmes, si on a des plaintes à faire contre un client, on peut comme les contacter. Donc oui, de ce côté-là, on a une belle relation. Il y a aussi le PIPQ qui collabore avec les enquêteurs des, justement du service de police de Québec.
Okay. Puis pour ce qui est des filles qui sont, exemple, dans la rue, qui sont sous le joug de pimp, il y a la maison de Marthe aussi qui est là pour les aider.
OK, ça, je ne la connais pas, cette maison.
C'est une excellente maison. Là, pour la maison de Marthe, c'est assez facile à trouver sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai eu la chance, en tant que gars, d'aller visiter cette maison-là parce qu'on ramassait des fonds pour la maison de Marthe à ce moment-là. Puis j'ai rencontré les filles qui étaient là. Puis sont dans une atmosphère hyper sécurisée, sont très conscientes des démarches qu'elles devront faire pour se sortir du milieu où elles étaient. Il y avait de l'air à l'avoir un peu plus rough, là, très honnêtement. Là. Puis c'était une maison où on ne pouvait pas l'identifier, là, où est-ce qu'elle était. Tu sais.
OK, je comprends.
C'est super bien sécurisé. Donc, pour les gens qui sont sous le joug d'individus un peu louches, bien, la maison de Marthe est là pour aider ces jeunes femmes-là. Puis la madame qui s'occupe de ça, c'est une madame tout à fait formidable.
Non, non, mais il y a vraiment des... On est chanceux parce que dans la région, il y a beaucoup de belles ressources. Puis on leur avait déjà parlé aussi. Émy, merci d'avoir pris le temps d'être venue en studio, de nous avoir jasé. Je trouve ça le fun parce qu'il y a des questions qui sont venues d'auditeurs. Fait que tu vois que ça suscite vraiment une curiosité
comprendre. Super, merci pour l'invitation.
Bien, écoute, merci à toi d'avoir pris le temps. Vous allez retrouver cette entrevue-là, évidemment, sur le blvd.fm, sur la chaîne YouTube aussi de Boulevard.
Émy Bellerose, merci.
Merci à vous. Bye bye. Bonne journée.
Passe une belle journée. 10h58, on s'arrête.
Avant la fin de l'automne, je vais passer une dernière